Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et oui, parce qu'il y a une actualité en matière d'agriculture. Les États membres de l'Union européenne ont entamé un ultime round de négociations ce 24 juin à Bruxelles pour trouver un accord sur la nouvelle politique agricole commune, la PAC. En mai dernier, ils avaient échoué à s'entendre sur des règles communes qui assurent une transition environnementale sans fragiliser les revenus des agriculteurs. C'est évidemment un équilibre assez complexe. Ces discussions à l'échelle européenne se télescopent avec des débats français autour d'une nouvelle loi sur l'organisation du secteur agroalimentaire destinée à assurer des revenus décents aux professionnels et à l'adoption d'un plan d'action climat par le ministère de l'Agriculture. Alors pour en parler, nous sommes avec Mathieu Calame. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, agronome, directeur de la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme et auteur d'Enraciner l'agriculture, société et système agricole du néolithique à l'anthropocène aux presses universitaires de France. Il y a un terme technique, Egalim, on a parlé d'Egalim 1, d'Egalim 2, on en parle en ce moment et en réalité ça nous concerne tous, mais il faut d'abord nous expliquer précisément, Mathieu Calame, ce qu'est Egalim.
Alors en fait, Egalim 2 est un complément d'Egalim 1. La loi Egalim, en fait, c'est une loi qui essaye non pas d'être une loi sur l'agriculture, mais sur l'alimentation. Et ça, c'est très important, parce que jusqu'à très longtemps, on a considéré que les politiques agricoles tenaient lieu de politiques alimentaires. Donc Egalim 1 avait essayé d'abord de mettre un petit peu plus de partage de la valeur ajoutée au sein de la filière. C'est aussi l'objet d'Egalim 2, puisque visuellement, Egalim 1 est un échec de ce point de vue-là, enfin du point de vue des parties prenantes. Et puis, mais Egalim 1 avait également introduit des questions, notamment d'alimentation via la commande publique. Et ce qui avait permis de faire rentrer vraiment les collectivités locales comme acteurs du système alimentaire. Et c'est ça le grand changement, donc la commande publique en achetant des produits plus durables, plus bio. Il y avait également une partie sur les emballages et le plastique, voilà.
Mais alors si on se tourne du côté des consommateurs, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça pourrait changer? Egalim 2 après Egalim 1, Mathieu Calame, en quoi cela nous concerne dans notre quotidien?
Alors Egalim 2, a priori, pas grand-chose en fait. C'est vraiment plutôt un accord interne aux acteurs de la filière pour la répartition de la valeur ajoutée. Maintenant, il est évident que si on sanctuarise le revenu des agriculteurs, ça aura un effet sur les consommateurs, mais en fait relativement faible parce que, comme vous l'ignorez sans doute pas, nos produits sont extrêmement transformés, ce qui fait que la part des produits agricoles dans les produits alimentaires que vous consommez tous les jours est assez faible, on va dire, c'est de l'ordre de 5-6%. Donc en augmentant même d'1%, ce serait une augmentation d'1%. Alors ça va dépendre si vraiment de type de produit.
Mais alors est-ce que il y a malgré tout un souci, une volonté d'aller plus loin dans une agriculture qui serait à la fois plus verte, plus respectueuse de l'écosystème et puis également peut-être plus à même de nourrir sainement les êtres humains?
Alors, à ma connaissance, dans Egalim 2, il n'y a rien du tout. Ça, c'était l'objet d'Egalim 1, qui donc incitait notamment les collectivités locales à avoir des produits, 20% de produits bio dans les cantines, aller vers moins de consommation de viande et de produits animaux. C'est plutôt l'objet, a priori, de la politique agricole commune, mais c'est très mal parti, comme d'habitude.
Pourquoi, justement? Et expliquez-nous, Mathieu Calame, pourquoi, a priori, on a l'impression que le bio est quelque chose de dominant dans les esprits, alors que dans les assiettes et puis aussi dans les lois, on est très loin de ce registre-là.
Alors, tout simplement parce qu'on est tributaire des politiques agricoles qu'on a mis en place dans les années 50-60 et qui sont des politiques d'industrialisation de l'agriculture dont le but est d'appliquer à l'agriculture ce qu'on a fait à l'artisanat. Donc, vous voyez, au 19e siècle, on a industrialisé l'artisanat. Le 20e siècle, enfin surtout la deuxième moitié, c'est le siècle de l'industrialisation de l'agriculture. Et donc, encore aujourd'hui, nos politiques publiques ont très peu de conditionnalité environnementale. Vous recevez même, d'une certaine manière, plus d'argent à actif égal quand vous faites de l'agriculture industrielle que quand vous faites de l'agriculture bio, puisque les aides sont à l'hectare et donc c'est plus facile de faire beaucoup d'hectares quand vous avez des produits chimiques que quand vous êtes en bio.
Mais ça, on avait la sensation que les pouvoirs publics, en tout cas une partie de l'opinion publique, voulait que ça change.
Alors oui, mais là, il y a une explication assez simple. Je ne sais pas, vous connaissez sans doute Guillaume Erner, le fameux texte de Eisenhower quand il parle du pouvoir de la présidence. Il parle du complexe agro-industriel. Et en fait, nos sociétés industrielles sont une série de complexes. Et vous avez notamment un complexe agroalimentaire. Alors d'ailleurs, Eisenhower disait le complexe militaro-industriel, finalement, est une menace pour notre démocratie. Et de fait, nos sociétés sont gérées par des complexes. En fait, c'est l'affrontement des complexes qui les fait bouger les uns par rapport aux autres. Donc si par exemple, je vais donner un exemple connu, quand l'agriculture a toujours été modifiée parce que dans le cadre des accords internationaux, d'autres secteurs d'activité, la banque par exemple, voulaient des accords. Donc on forçait la main au complexe agricole. Mais l'envie du consommateur est rarement en fait, et du citoyen, sont rarement le facteur qui influe le plus sur l'évolution de la politique agricole commune, malheureusement. Et j'en terminerai en disant, vous savez, l'écologie, c'est un petit, je crois que c'est Barès qui disait de l'Alsace-Lorraine, il pensait toujours n'en parler jamais. L'écologie, c'est la même chose. C'est exactement l'inverse, pardon. On en parle toujours, mais on n'y pense jamais.
Bon, mais alors, il faut quand même rappeler, Mathieu Calame, que, à l'origine, cette politique, elle visait à nourrir le plus grand nombre. Il y avait quasiment une ambition prométhéenne là-dedans, qui consistait à se dire que le monde avait vécu sous l'égide de la rareté, et notamment de la rareté de produits agricoles, et qu'on allait s'extirper de ça en maîtrisant la nature. C'est ce projet-là, aujourd'hui, qui perdure.
Alors, c'est la grande promesse de la société industrielle, c'est la promesse cornucopienne de l'abondance absolue de tout. Maintenant, les politiques agricoles, elles ont quand les politiques agricoles sont mises en place, c'est pas tellement en réalité pour nourrir la population, même si on l'a vendu comme ça à la population, c'est parce que après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait le constat que les plus grandes puissances sont des puissances industrielles, et donc la politique agricole d'industrialisation de l'agriculture, c'est comme l'acquisition de la bombe atomique, c'est une politique de puissance en fait. Et le but est beaucoup plus de libérer des bras pour pouvoir industrialiser, c'est-à-dire qu'il faut diminuer le nombre d'actifs dans l'agriculture pour pouvoir créer Boulogne-Billancourt, en gros. C'est un transfert de main-d'œuvre de l'agriculture vers l'industrie qui est organisée. C'est ça son fondement.
Bah alors, le problème, c'est que cette politique de puissance, elle a des externalités, comme on le dit joliment en économie, elle a eu des conséquences plutôt néfastes.
Alors, oui, de toute façon...
Je vous pose la question.
Oui, non, bien sûr. Bon, de toute façon, la compétition au niveau international, on l'évoquait tout à l'heure, c'est pas la solution pour un monde interconnecté. Il va falloir sortir des logiques de puissance pour aller vers des logiques de coopération. Ça, j'ouvre une parenthèse et je la referme, c'est de manière générale. Ceci dit, en agriculture, bien sûr que pour augmenter à la fois la production par actif, en fait, pour libérer du nombre d'actifs, on a utilisé de plus en plus des machines, des tracteurs, etc. On a utilisé de plus en plus de nitrates, hein, puisque en quelque sorte, les nitrates, c'est pour les végétaux ce que les anabolisants sont pour les sportifs, c'est-à-dire vous en mettez, vous faites du forçage, et donc ça a eu un impact notamment sur les sols. Et puis comme ça fragilise un peu les plantes, enfin même beaucoup les plantes, et qu'en plus on a fait de la monoculture pour que les machines passent bien. Enfin voilà, c'est le problème classique, je ne vais pas revenir là-dessus, que tout le monde connaît depuis les années 70. On a dû avoir de plus en plus de pesticides, d'insecticides. Donc en fait, on a une agriculture qui est un sportif de haut niveau, qui dépend d'anabolisants et qui est extrêmement fragile pour sa santé. Voilà, et il vaut mieux pas boire son urine parce qu'il y a tous les résidus d'anabolisants qui sont dedans.
Mais il y a quand même eu des effets, alors, bénéfique, en tout cas en partie bénéfique à cette politique-là, donc avec les intrants, avec l'utilisation donc d'une agriculture très mécanisée, on a augmenté les rendements, donc on a diminué les prix de l'alimentation et de fait la baisse a été considérable, on est en deçà de 10% en matière de budget alimentation pour le budget des ménages, Mathieu Calame. C'est quelque chose que l'on paye, on le paye donc du prix d'une crise écologique, d'une pollution des eaux, des sols. Cela est indéniable. Est-ce que la crise sanitaire que nous venons de traverser peut modifier cette situation, cette prise de conscience ?
Là, c'est la question qu'on pose toujours par rapport à la crise sanitaire. Est-ce qu'elle va avoir un changement structurel? Elle aura sans doute un changement, elle accélère peut-être un changement culturel, notamment en fait de manière indirecte pour l'agriculture. C'est qu'on s'est aperçu que la dépendance à la production de médicaments, de masques est un problème, que rien ne nous garantit que les énormes flux de produits au niveau mondial ne peuvent pas à un moment s'arrêter pour une raison ou pour une autre. Imaginons demain, si vous voulez, que les États-Unis et la Chine rentrent en guerre, parce qu'on sent des roulements
des
de tambour, voilà, des tensions. Oui, effectivement, qu'est-ce qu'on fait dans des tas de domaines? Et notamment, on sait que notre agriculture est très extrêmement dépendante des énergies fossiles, enfin de la biomasse fossile qu'on importe du Moyen-Orient. Donc imaginons que demain, on ne puisse plus avoir accès au pétrole du Moyen-Orient, notre productivité s'effondre. Voilà. Donc je crois que la crise du Covid, elle nous a sensibilisés en fait au fait que nous sommes extrêmement dépendants d'importations extérieures. Et donc il y a une réflexion autour d'un certain niveau de relocalisation qui ferait qu'au moins le minimum vital serait maintenu en cas de rupture.
Mais justement, à la faveur du premier confinement, par exemple, Mathieu Calame, il y a eu beaucoup de prises de conscience sur les achats locaux. Ce système-là, avec un circuit court qui était plutôt dans les limbes, est devenu quelque chose de plus familier aux Français. Est-ce que vous pensez que ça va perdurer ?
Oui, quand les changements sont de cet ordre-là, c'est vraiment un peu culturel et je pense que c'est un pas, il perdure beaucoup plus. Donc il y a une dimension culturelle et qui en fait vient à des racines très profondes. Hein. Les alternatives à l'industrialisation de l'agriculture, elles commencent en même temps que l'industrialisation de l'agriculture d'une certaine manière. Donc les acteurs sont là. C'est ça qui est important. Maintenant, il est évident que dire que demain, Paris va entièrement se nourrir en circuit court, d'abord, les circuits courts, ça porte énormément sur les fruits et légumes et à la limite du vin, un peu de la viande. Mais je rappelle quand même que pour couvrir votre besoin calorique, si vous le couvrez avec des oignons, vous avez besoin de manger 6 kilos d'oignons par jour, alors qu'il vous suffit d'un kilo de blé. Donc, le circuit court porte rarement sur des produits à haute valeur énergétique. Et là, il y a quand même un problème. C'est pas évident d'avoir...
Pourquoi ? Parce que les céréales sont beaucoup plus concentrées géographiquement et requièrent des industries qui sont plutôt des agricultures qui ont une forte intensité capitalistique de machines, etc.
Alors on peut faire des céréales à moins forte intensité, mais globalement surtout, il est évident que les circuits courts marcheraient bien avec des produits peu transformés. Les céréales, si je vous livre chez vous un kilo de blé brut, et d'ailleurs c'est pour ça que la loi Egalim est importante en parlant d'alimentation, c'est qu'on peut pas réduire l'alimentation à l'agriculture. Encore une fois, nous consommons des produits très transportés et très transformés. Hein. Donc, il y a cette première dimension-là. Et la deuxième dimension qui est fondamentale, c'est que il y a 12 millions d'habitants en Île-de-France. En fait, si vous faites un petit peu de calcul, vous vous apercevez très vite qu'avec la surface de l'agriculture francilienne, vous ne nourrissez pas l'Île-de-France. Ce qui pose le problème de la métropolisation. C'est-à-dire que ça, l'arbre cache la forêt, c'est que la question agricole et alimentaire cache la question de la durabilité des métropoles qui est absolument pas assurée à l'échelle de 2050.
Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faudrait revoir notre alimentation? Alors pour la partie carnée, c'est quelque chose qui est dit et répété, peut-être pourriez-vous revenir là-dessus, peut-être aussi, je ne sais pas, sur les céréales. J'ai entendu dire qu'on consommait trop de céréales.
Oui, alors l'essentiel des céréales qu'on utilise actuellement sont faites pour nourrir les animaux. Hein, donc 60 à 70% de la SOLE, de ce qu'on appelle la SCOP, les céréales et oléoprotéagineux cultivés en France, sont pour nourrir les animaux. Donc en fait, on a besoin pour nous-mêmes de beaucoup moins de céréales, et c'est pour ça qu'on explique qu'il faut manger beaucoup moins de viande. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup moins de viande et de produits animaux, c'est-à-dire de réduire de l'ordre de 80% à l'échelle de la planète, si on veut que les autres puissent en avoir un petit peu. Voilà, ça c'est la dimension. Ce qu'il faut manger en plus, alors il y a plusieurs, là je renvoie aux travaux de Solagro, Solagro qui a fait un scénario qui s'appelle After et qui a fait un document qui s'appelle Le revers de notre assiette, qui montre l'impact de notre alimentation sur l'environnement, voilà. Et ce qu'il faut manger beaucoup plus, bon, c'est une évidence. D'ailleurs, c'est comme ça que les Romains et les Grecs mangeaient. Il faut manger plus de lentilles, plus de fèves et plus de fruits secs. Et puis, alors.
Allez, fèves voilà. est contestée dans l'Antiquité.
Oui, oui, alors je suis d'accord que Pythagore était un ennemi des fèves qu'il digérait mal, c'est vrai. Mais et sinon, il y a quelque chose dont on parle très très peu, qui est l'arbre alimentaire, mais pourtant il faut se rappeler qu'un pays comme les Cévennes mangeait en fait des châtaignes. Et ça, c'est probablement le meilleur bilan environnemental, puisque l'arbre a un effet sur l'environnement qui est très supérieur, qui est même positif, alors que la culture de céréales dégrade toujours l'environnement.
Mais oui, mais justement, vous venez de le dire, parce qu'on tourne le dos à des industries qui seraient des industries productives. Vous parlez par exemple de la châtaigne, mais il est aujourd'hui compliqué de faire consommer aux personnes uniquement de la bouillie de châtaigne comme on le faisait auparavant. On est parti sur des régimes alimentaires qui sont très diversifiés, avec beaucoup de produits. Vous évoquiez les légumes, le maraîchage, des choses qui sont aujourd'hui beaucoup usitées dans les circuits courts, qui sont précisément des cultures qui requièrent beaucoup de diversité et finalement des produits peu caloriques, donc avec peu de productivité.
Alors non, c'est certain, comme je le disais, que vous n'allez pas assurer votre besoin de calories avec des oignons. Hein. Maintenant, ça va apporter d'autres choses, c'est des fibres. Mais il est évident que l'une des questions quand même au niveau mondial sera que, en gros, on assure notre niveau de vie à l'heure actuelle grâce à des hectares fossiles, parce que ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que, j'ai utilisé une image, mais le charbon, le pétrole, c'est des bûches fossiles, en fait. C'est les excédents de biomasse qui ont été produites il y a des millions d'années. Donc, on utilise une terre fossile, voilà, du passé, et on sait qu'on ne va bientôt plus devoir l'utiliser. Donc là, on n'aura pas le choix, il va falloir changer. L'écologie, ce n'est pas une question de choix. Les lois de la nature ne se décident pas au Parlement, hein. Je le rappelle à tout le monde, voilà, sauf à croire que Emmanuel Macron veut nous faire apparaître une troisième terre par décret, après en avoir consommé une deuxième, elle ne se décide pas au Parlement, donc il va falloir changer.
Mathieu Calame, Enraciner l'agriculture, société et système agricole du néolithique à l'anthropocène aux Prés universitaires de France. Vous serez rejoint dans quelques instants par Jean-Christophe Bureau, professeur en économie à AgroParisTech, qui a notamment publié La politique agricole commune aux éditions de La Découverte. On va continuer d'évoquer ce nouveau cap pour l'agriculture, en quoi il aurait des conséquences à la fois sur l'environnement et sur notre alimentation.
7h-9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Un nouveau cap pour l'agriculture. Eurodéputés et États membres de l'Union européenne ont trouvé dans la nuit un accord sur le premier texte de la nouvelle politique agricole commune, avec des règles destinées à verdir l'agriculture européenne, et devaient reprendre aujourd'hui des pourparlers, peut-être pour conclure, notamment sur l'organisation des marchés agricoles. Alors tout cela peut sembler un peu théorique, mais en réalité a des conséquences sur nos modes de vie, notre alimentation, le budget aussi destiné à l'alimentation. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Mathieu Calame, ingénieur agronome, directeur de la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l'homme. On vous doit notamment Enraciner l'agriculture, société et système agricole du néolithique à l'anthropocène aux Prés universitaires de France. Et nous sommes en duplex avec Jean-Christophe Bureau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en économie AgroParisTech, co-auteur de La politique agricole commune aux éditions de La Découverte. Il faut nous dire en quoi cet accord, Jean-Christophe Bureau, pourrait avoir des conséquences sur l'organisation de la filière agricole et puis aussi peut-être sur nos modes d'alimentation, nos modes de vie.
Oui, alors je suis pas totalement convaincu qu'il y ait un accord. Enfin, il est dans la nuit déjà, on n'a pas trop l'information et il est quand même assez partiel apparemment sur un des volets qui est le verdict.
On ne dévoile pas les détails en tout cas.
Voilà, c'est ça.
S'il demeure secret, je ne sais pas encore pour combien de temps, mais voilà où nous en sommes.
Il est probable quand même que dans le mois, si ce n'est les jours qui viennent, il y aura un accord puisque c'est quand même une négociation qui traîne depuis. Les propositions de la Commission qui datent quand même de 2017, hein, et le texte sur lequel on négocie, il date de 2018, donc ça commence à faire un petit peu long. Il faut voir que il y a vraiment la source du problème sur cette discussion PAC, c'est que les États membres ne sont pas du tout d'accord sur la PAC et même sur la vision de l'agriculture. Il n'y a plus rien de partagé entre États membres. Et le problème, il est vraiment crucial à ce niveau-là, puisque la Commission, je vous rappelle que la Commission ne décide rien dans ce domaine-là, c'est d'un côté le Conseil, donc les États membres, et de l'autre le Parlement européen. Mais la Commission, elle est très embêtée puisqu'elle doit faire la proposition législative. Et du coup, comme il n'y a vraiment aucun accord entre les États, elle a mis sur la table en 2017, puis le texte sur lequel on discute la proposition législative, vous savez, le truc bien pénible avec plein d'attendus, etc., ça date de 2018, elle a fait un texte qui est quand même, ben, on enlève plus ou moins le C de la PAC. On a un budget commun, chacun va prendre un morceau, on discute sur le morceau, et puis chacun va faire un petit peu ce qu'il veut dans ce qu'on appelle une stratégie nationale, un plan stratégique national, qui est quand même une très forte renationalisation de la PAC. Alors ça inquiète pas mal le Parlement quand même, qui trouve que, eh bien, il y a un danger à ce que on n'est plus du tout une PAC commune avec des distorsions de concurrence, puisqu'elle avait été faite en 1957 avec des règles prix unique, aide unique. Hein. Donc là, on s'en écarte.
Surtout que ce serait quand même absurde de prélever une dîme à la totalité des pays européens pour ensuite leur redonner cette dîme. C'est un peu une mécanique à la Shadok.
Tout à fait. Tout à fait, je dirais pas mieux que vous, ce domaine-là. Et puis, c'est l'autre chose qui inquiète le Parlement européen, enfin, qui n'est pas non plus complètement dans l'extrême vert, mais dans la mesure où il y a eu pas mal d'élus verts, en particulier envoyés par les Allemands, c'est le manque d'ambition assez forte de cette PAC sur le plan environnemental. Et surtout, le risque avec cette subsidiarité très forte d'une course au moins-disant environnemental. Alors, on a des pays qui ont dit hein, qu'ils n'en avaient à peu près rien à carrer de l'environnement.
Qui des noms.
La Pologne, la Hongrie, enfin la Pologne n'a toujours pas ratifié la COP21 quand même, c'est le seul État membre hein, sur le climat. Donc on sait très bien que l'argent dans leur plan stratégique national va aller vers des aides à l'investissement, vers des aides à la production. Ce qui veut dire que si un État membre, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais voulait vraiment faire des aides plus verdir ces aides, eh ben, il aurait ses syndicats en face qui disaient « mais regardez ce que font les autres, nous on ne va pas résister ». C'est un petit peu ce qui se passe en France, même si il ne faut pas surestimer non plus l'ambition environnementale de notre ministère de l'Agriculture. Mais on est un petit peu dans cette situation-là. Donc là, on se bat un petit peu entre le Parlement et le Conseil sur des chiffres. On a par exemple la Commission qui insiste pour réserver des budgets à des aides favorables à l'environnement, mais le Parlement voudrait que ce soit au moins 30% des aides, le Conseil voudrait que ce soit que 20%. Actuellement, il y a déjà 30%.
Oui.
Le Conseil voudrait revenir un petit peu en arrière. On est vraiment, alors il va sûrement y avoir un compromis à 25%, ouais, un truc dans ce genre, quoi. C'est ce qui a dû se décider cette nuit. Mais vous voyez qu'on est quand même vraiment très en deçà d'une réelle ambition. Et l'autre point qui gêne le Parlement et la Commission, c'est que on a la réforme de la PAC qui est lancée donc depuis, on va dire, plusieurs années hein, maintenant. Mais entre-temps, il y a eu un très gros événement qui s'appelle le Green Deal. Le Green Deal qui est porté par la Commission européenne, par la présidente, et qui donne un cadre à long terme d'évolution des politiques européennes. Et dans ce Green Deal, il y a tout un volet agroalimentaire et tout un volet biodiversité, et qui est très ambitieux hein, sur le papier, et qui en plus là est boosté, je dirais, par l'actualité, parce que la crise Covid a nécessité un grand plan de relance européen, comme vous le savez, ce qu'on appelle le Next Generation EU Recovery Plan, et que la Commission européenne, dans une grande intelligence, a décidé de mettre ce plan de relance au service des ambitions du Green Deal, donc assez fort verdissement. Et là, on a un très fort décalage entre cette réforme de la PAC qui était lancée donc avant ce Green Deal et qui n'a quand même pratiquement aucune ambition environnementale, et puis le cadre général. Donc là, ce décalage, il est tout à fait énorme, mais il y a une incohérence tout à fait fondamentale.
Donc cela fait effectivement
voilà.
un autre problème, Jean-Christophe Bureau. Une réaction, Mathieu Calam.
Oui, plutôt des compléments. Vous évoquiez les Shadoks.
C'est important, les Shadoks.
C'est important, les Shadoks. Et effectivement, je pense que vos auditeurs comprennent bien que l'Europe, ce sont les États qui décident, en fait. On dit toujours Bruxelles, mais ce sont les États, c'est une confédération. Et depuis le début, notamment pour la France, la logique Shadok pour soutenir la politique agricole commune marche à plein, puisque la France était l'un des pays qui bénéficiait le plus. Donc, en gros, on a demandé aux Allemands de payer la politique agricole, si on regarde, si vous voulez, en contribution de chaque pays. Donc, c'est les Shadoks.
Logique absurde, parce qu'il faut quand même dire alors, ce que sont les Shadoks aux plus jeunes.
Oui, ils pompent, il faut que pomper, il faut voilà, circuler.
C'est vrai que personnages un peu absurdes.
La source quand même nette, c'est l'Allemagne et les Pays-Bas. C'est-à-dire que dans ce système-là, il y a un pays, alors maintenant la France paye un peu plus avec l'ouverture, mais pendant longtemps, si vous voulez, la France bénéficiait beaucoup de la PAC. Donc c'est vrai qu'en France, il y a une doctrine, c'est le taux de retour, c'est-à-dire que de même que Margaret Thatcher avait dit « I want my money back », la PAC
je veux est le moyen. Mon argent.
Je veux mon argent.
Voilà. Traduit.
Et le second point que je voulais souligner, c'est que... On peut se mettre d'accord sur un principe d'éco-conditionnalité. Tant qu'on n'a pas vérifié quelles étaient les conditions exactes, ça peut être complètement du greenwashing. Et à vrai dire, les décisions prises par notre ministère de l'Agriculture font pencher chez la balance du côté de la France, du côté du greenwashing total. Hein. Donc on va éco-conditionner, mais simplement il faudra que les tracteurs soient peints en vert, et ça fait une différence.
Mais alors, Mathieu Calame, parce qu'on a beaucoup entendu dire que les aides à... l'éco-conversion pour se lancer dans l'agriculture verte avait été beaucoup baissée en France. Qu'en est-il ?
Alors, non, ce qui vient de se passer là, si on suit ce que va proposer la France, il va garder des aides à la conversion agricole biologique, mais il va abandonner l'appui qui sont en fait l'appui structurel à l'agriculture biologique en contrepartie de ses services environnementaux. En fait, une grande partie des ONG, de la société civile, demandait que soient reconnues les fonctionnalités environnementales de l'agriculture et de dire, voilà, quand vous préservez l'eau, vous méritez quelque chose. C'est le paiement des services environnementaux. Et là, très clairement, la décision a priori du non-ministère de l'Agriculture, ça va être de maintenir la conversion à l'agriculture biologique, mais après les 5 ans, une fois que vous avez fait la conversion, vous êtes au même régime d'aide que quelqu'un qui fait presque rien, et donc effectivement, vous ne rémunérez pas, en fait, c'est absolument pas une reconnaissance des services environnementaux, ces fameuses externalités qu'il convient d'internaliser.
Les conséquences néfastes, c'est ça qu'on appelle les externalités. Jean-Christophe Bureau, il y a deux problèmes économiques très clairs qui se posent pour l'agriculture. Le premier, c'est le partage de la valeur ajoutée. Comment, en fait, entre la distribution et les agriculteurs vont être distribués les bénéfices éventuels. Et puis, le deuxième problème, c'est bien entendu le coût des produits agricoles. Alors, sur le premier point, où en est-on ? Il y a eu beaucoup de protestations de la part d'agriculteurs qui considéraient que les marges absorbées par la grande distribution ne leur laissaient plus les moyens de vivre. Quelle évolution observe-t-on ? Et est-ce que la PAC ou les règles fixées à l'échelle nationale peuvent influer là-dessus ?
Alors, il est vrai qu'il y a quand même, pour un économiste, quelque chose d'un peu choquant, c'est qu'on a des centrales de supermarchés qui sont très très concentrées, qui en plus la poignée de centrales qui reste fait des accords entre eux pour négocier collectivement vis-à-vis des agriculteurs et encore plus peut-être des entreprises agroalimentaires, hein, les abattoirs, etc. Et qu'en face on a des gens qui n'ont pas vraiment de pouvoir de marché. Donc c'est très asymétrique, ce qui est un petit peu choquant. Alors Jean Tirole avait recommandé non pas de renforcer le pouvoir de marché,
Jean Tirole,
le prix Nobel d'économie, non pas de renforcer le pouvoir de marché des agriculteurs, ce que cherche un peu à faire le gouvernement et le Parlement européen d'ailleurs, mais plutôt d'organiser la concurrence dans les centrales d'achat du supermarché. Alors là, face à cette concentration, il y a une grosse initiative européenne, mais aussi française au niveau national, pour essayer justement de renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs. Donc il y a des directives européennes qui sont en place et d'autres qui sont en train d'être discutées. Mais en France, nous avons cette loi Egalim qui est sortie en 2018, je crois, qui essaye d'organiser des relations plus équitables. Enfin, elle a plein de volets. Il y a des volets environnementaux, bien-être animal, etc. Mais sur la partie sur laquelle vous me posez une question, des relations plus équitables, avec certains aspects qui ont quand même assez bien fonctionné pour certains produits. Pour d'autres, on a vu des effets pervers, par exemple l'interdiction de promotion, de revente à perte. La filière du foie gras a trouvé que ça lui avait enlevé des débouchés. Non. Et il y a surtout des aspects qui ont quand même beaucoup de mal à fonctionner. C'est l'idée que les prix d'achat par les supermarchés doivent refléter les coûts de production. Ça, c'est évidemment très difficile à faire passer. Je me rappelle d'une phrase de Michel Rocard, un peu désabusé, qui recommandait en 1981 ou 2 à ses collègues socialistes de ne pas faire des lois qui aillent trop en contradiction avec des mécanismes économiques. Il disait... on ne biaise pas avec le marché, ben on est un petit peu là, c'est que quand vous avez beaucoup d'offres, les prix sont bas et une des solutions, c'est d'inciter à la contractualisation, mais la contractualisation ne résout absolument pas tout. Hein. Je peux vous citer une anecdote, j'avais travaillé dans un secteur où il y avait des grosses aides pour inciter des producteurs de fruits et des transformateurs, hein, genre poireaux, sirop, etc., à contractualiser, des aides énormes, hein, vraiment une grosse partie du coût. Et donc, les contrats étaient signés, n'étaient pas respectés, donc j'avais été chargé d'être un peu médiateur pour voir ce qui se passait. Et j'allais voir les agriculteurs, ils disaient, mais on a signé un contrat à tel prix, mais si les Italiens sont moins chers, les transformateurs, eh bien, ils nous trouvent plein de problèmes de qualité sur les poires, etc., et pour refuser le contrat, ils se vendent acheter en Italie à côté. Et puis quand on allait voir les conservateurs, ils disaient voilà, ben si on a signé un contrat, mais si les prix en Italie sont plus hauts, les agriculteurs nous disent qu'ils n'ont pas pu récolter, ils font venir des camions la nuit qui envoient des palettes en Italie pour vendre plus cher. Du coup, vous voyez bien que le marché sur le fond, il est très difficile de faire respecter ce genre de contrat quand les fondamentaux économiques ne sont pas en accord avec les termes du contrat. Donc je suis pas sûr que ça va fonctionner très très bien. Alors, il y a quand même un véritable effort du gouvernement pour que ça fonctionne.
Voilà donc un premier élément de réponse. Votre élément de réponse à vous, Mathieu Calame.
Oui, sur la question des coûts de production qui me paraît essentiel, c'est-à-dire combien ça coûte de produire quelque chose, c'est une question, c'est un peu une boîte qu'on n'ouvre jamais vraiment, et ça c'est symptomatique, c'est-à-dire que dès qu'on parle du partage de la filière au sein de la production alimentaire, de partage de la valeur ajoutée pardon, au sein de la filière, on part toujours du conflit entre l'aval et les agriculteurs. On fait comme s'il n'y avait pas d'amont. Mais quand un agriculteur produit, la majorité de l'argent qu'il gagne quand il vend, il va où ? Il va au Crédit Agricole, il va aux vendeurs de pesticides, il va... Et on ne parle jamais de la responsabilité de l'amont dans le coût des produits. On fait comme si c'était juste entre le consommateur et l'agriculteur, il y avait des méchants qui prenaient leur argent. Mais on a évoqué tout à l'heure l'explosion du prix de certaines matières premières, et on voit bien qu'en 2008, une des raisons de l'augmentation très rapide du coût des produits alimentaires, c'est l'augmentation du pétrole. C'est-à-dire que si le pétrole monte, les coûts de production... Et donc là, il va falloir traiter le problème de l'amont. On ne peut pas s'arrêter aux agriculteurs, à la distribution. Il faut prendre...
Mais alors, ça veut dire quoi, traiter le problème de l'amont pour vous ?
Ah ben, typiquement, il va falloir, par exemple, s'interroger sur les marges du Crédit Agricole, les marges de même... On parle souvent des marges que font la pharmacie sur les médicaments, mais quelles sont les marges que font Bayer, BASF, sur les produits phytosanitaires, etc. On pourrait ouvrir... La raison pour laquelle on n'ouvre jamais cette boîte, c'est que l'un des gros acteurs de la filière agroalimentaire, ce sont les coopératives. Les coopératives, elles sont supposées être au service des agriculteurs, mais les coopératives, la majorité de leur chiffre d'affaires, elles le font maintenant sur la vente de pesticides. Voilà. Donc c'est très clair que c'est le sujet qu'on n'aborde jamais, et ça, c'est la responsabilité des syndicats agricoles de ne pas l'aborder. Et la deuxième chose que je voudrais quand même évoquer, c'est que en agriculture, en alimentation, en sécurité alimentaire, le marché n'a jamais fonctionné. Les seuls qui se permettent s'ils se sont permis d'être libéraux dans l'histoire, c'est l'Angleterre au XIXe siècle, parce que fondamentalement, elle bénéficiait de l'échange inégal. Depuis, aucun pays...
L'échange inégal, c'est une manière de considérer la division à la fois du travail et de la production, et d'acheter à bas coût.
On produit plus en alimentation parce qu'on est hégémonique au point de vue économique.
Mais on pourrait dire aussi que l'Angleterre en a payé les conséquences après.
Ah ben, elle a arrêté en 1914 parce que effectivement là elle a découvert que si elle était victime d'un blocus, elle crevait de faim.
Mais oui.
Il faut pour avoir l'échange inégal, il faut que vous ayez l'hégémonie militaire et économique.
Alors justement, la question de l'hégémonie alimentaire ou en tout cas de la sécurité alimentaire aujourd'hui, elle se pose particulièrement, Jean-Christophe Bureau, tout simplement parce que on assiste à une augmentation des prix des denrées agricoles, qui est particulièrement lourde pour des pays qui importent la quasi-totalité de leurs produits agricoles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur les bourses mondiales où les denrées agricoles sont cotées, et pourquoi assiste-t-on à une hausse des prix ?
Là, en effet, c'est pas nouveau, il y a eu des très fortes hausses de prix dans les années 30, etc. On a eu très forte hausse de prix de 2007, mais vous l'avez déjà évoqué, à 2013, pour les prix des céréales en particulier, productions. Mmh. Depuis, c'était assez stable. Et là, on a une forte hausse, ces derniers mois. Là, ça baisse un petit peu sur les marchés à terme parce qu'on s'attend à des bonnes récoltes, en particulier en France, avec ces sympathiques pluies que nous avons eues là. Mais on a quand même des prix des produits agricoles. Pour vous dire, en général, le prix du blé, on va dire que c'est autour de 140-150 euros. En 2008, c'est monté à 270, vous voyez. Et là, on est plutôt à 200, quoi. Donc, on est quand même à des cours, à des prix assez, assez élevés. Alors, les causes, eh bien, c'est en partie la relance économique. Alors, c'est vrai qu'il y a plus d'activités, plus de revenus distribués. On le dirait, mais c'est pas parce qu'on donne des sous, que M. Biden donne des sous, que les gens se gavent de blé. Bah, quand même un petit peu aussi, parce que plus de pouvoir d'achat, ça va dans les produits animaux. Et comme l'a bien dit M. Callam, les produits animaux, ça absorbe beaucoup de céréales. Hein. Donc on a cet aspect-là au niveau mondial. Il y a quand même des sécheresses, des récoltes mauvaises par endroit, hein, température et puis pluie. Et donc, on a les deux effets qui se combinent. S'ajoute à ça aussi l'aspect des agrocarburants qui absorbent une assez grande partie maintenant du colza, par exemple. Et puis, au niveau mondial, même du maïs, hein, l'éthanol américain. Ça, on en met beaucoup dans un marché qui est infini. Hein, les carburants, là, on pourrait y passer toute la production agricole mondiale. Et du coup, ça tire aussi cette demande. Et là, on n'a pas de rupteur, si vous voulez. Lorsque les prix sont hauts, des économistes proposent qu'on arrête justement de mettre ces produits agricoles dans les agrocarburants. Mais les industriels ne sont pas chauds parce qu'ils ont investi. Et puis, on n'a pas trouvé de régulation mondiale. Nicolas Sarkozy avec le G8 en 2008 avait tenté d'introduire ce débat, mais le Brésil et la Chine ont dit pas du tout. Donc on a vraiment ce côté la voiture américaine qui peut prendre du maïs pour le mettre dans son réservoir, alors qu'un consommateur africain en aurait besoin. Et ça, le capitaliste n'a pas du tout réussi à régler ça.
Un commentaire, Mathieu Callam.
Oui, il y a un très bon ouvrage de Benoît Daviron, qui est un économiste du CIRAD, qui décrit l'histoire longue des politiques agricoles. Et ce qu'il explique bien, c'est qu'en fait, de 1950 à 1980, en gros, le marché était relativement régulé. Les échanges internationaux étaient faits par les États. On a démantelé tout ça, et maintenant, l'État, le maître du marché, en fait, c'est celui qui est capable de stocker. Et c'est la Chine qui est le stockeur en dernier ressort. C'est-à-dire que la Chine va en fonction de ses besoins. C'est pas elle, la Chine n'a rien contre nous, mais elle va faire en fonction de ses besoins. C'est-à-dire si elle a une reprise, etc. Et donc, si on voulait et un marché qui n'est pas régulé, il donne lieu aussi à des spéculations. Et il faut rappeler à tout le monde qu'il y a une très forte élasticité prix des produits agricoles. C'est-à-dire que vous augmentez pas du jour au lendemain votre consommation, en fait. Et vous ne la diminuez pas non plus du jour au lendemain. Donc si une très faible mauvaise récolte fait exploser les prix, une très faible bonne récolte les fait chuter. Parce que le coût en plus des céréales, c'est le coût de stockage. Donc on voit bien que c'est un marché qui n'est pas assimilable à celui de la chaussette, n'en déplaise à Michel Rocard.
Et alors, ça, est-ce que ça ne pourrait pas nuire, Jean-Christophe Bureau, à l'effort général de convertir en bio un certain nombre de denrées agricoles? Parce que lorsque les prix sont hauts, ça n'est pas très incitatif pour les agriculteurs de changer de mode de production. Et puis, ça veut dire que le bio est encore plus cher.
Tout à fait, là il y a une véritable menace, pas forcément sur le bio, mais sur toutes les pratiques environnementales, puisqu'on le voit très bien, hein, les prix élevés, ça n'incite pas du tout à être plus vertueux, ça incite à envoyer plus d'engrais et plus de produits phytosanitaires, parce que les dernières unités produites qui coûtent un petit peu cher, hein, on a ce qu'on appelle des rendements décroissants, eh bien elles sont très bien rémunérées, et on voit très très bien les périodes de prix hauts, où on va avoir des problèmes environnementaux. Il y a un article qui est très intéressant, c'est sur les chutes de biodiversité. Alors c'est sur l'Écosse, je crois, les chutes historiques sur plusieurs siècles. Eh bien, la destruction de la biodiversité, elle correspond aux périodes de prix agricoles élevés. Article de Henley. Et ça, c'est très intéressant. De la même façon, la destruction, par exemple, du bison aux États-Unis, qui a eu lieu de plusieurs millions en quelques années, c'est beaucoup lié au prix élevé du cuir à cause des guerres en Europe et des demandes militaires. Donc on a vraiment cette relation entre l'environnement et les prix qui est très négative. Je ne crois pas du tout un certain nombre de militants qui disent on est obligé de polluer parce que les prix ne sont pas assez élevés. Ça, c'est complètement faux. Toutes les statistiques montrent l'inverse, qu'on a vraiment plus d'intensification lorsque les prix sont élevés. Donc ça, ça va être un des problèmes.
Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle de plus
qui accompagnent voilà. Donc des prix élevés qui sont une autre mauvaise nouvelle pour le consommateur.
Tout à fait.
Ce que ça montre, c'est que les questions d'environnement seront résolues en agissant sur l'aval de la production et pas sur l'amont. C'est-à-dire si vous avez des prix élevés, les gens vont utiliser énormément de facteurs de production. Des prix élevés à l'aval. Voilà, c'est-à-dire si les produits agricoles sont élevés, ils vont en utiliser beaucoup. S'ils sont très bas, ils vont pas produire et ils vont être ruinés. Donc il n'y a pas de solution par une régulation par les prix agricoles. Ce qu'il faut réguler, c'est par la loi ou éventuellement par des taxes sur les facteurs de production. C'est-à-dire qu'il faut rendre ou interdire cher les pesticides, il faut rendre ou interdire cher le pétrole, il faut, etc.
On peut aussi imaginer une évolution des pratiques.
On peut imaginer, sous l'influence des consommateurs, une évolution des pratiques.
Évidemment. On observe malgré tout Hervé Gardette qui fait sa transition chaque matin. On est le témoin et le commentateur.
Exactement. Cela étant, l'esclavage n'a pas disparu parce que tous les propriétaires d'esclaves ont libéré leurs esclaves. À un moment, il faut passer par la loi, il faut passer par la coercition. C'est ce qui fait la différence entre un comportement individuel et un comportement collectif.
Justement, Jean-Christophe Bureau, donc, au moment de conclure, on ne sait pas encore quels sont les accords qui vont être pris pour cette nouvelle PAC. On sait qu'ils auraient abouti à une partie d'accords. Est-ce qu'il faut en attendre beaucoup ou s'agit-il uniquement aujourd'hui d'une étape vers un changement plus global ?
Je pense qu'on peut en attendre pas grand chose, hein, entre nous, si ce n'est...
Mathieu Calame dit un recul, vous l'avez peut-être entendu.
Donc il est je ne suis pas loin de penser comme lui, hein, là-dessus, oui, on va pas attendre grand chose, pas sur le plan environnemental, pas sur le plan climatique. On attend plutôt, justement, ces distorsions de concurrence entre États membres. À terme, si vous voulez, je pense que le contribuable va se poser la question, comme vous l'avez dit vous-même, à quoi ça sert de mettre de l'argent dans un pot commun, qu'on se le partage et chacun fasse ce qu'il veut. Où est la valeur ajoutée européenne, la plus-value européenne qui est dans les traités? Je crois que ça va... À long terme, je pense qu'on va un peu dans le mur, on est en train de se tirer une balle dans le pied, et ça c'est beaucoup lié aux syndicats agricoles européens qui refusent cette évolution. On fait une PAC qui ne change pas grand-chose, qui est presque un peu pire qu'avant. À un moment donné, je crois que le contribuable risque de poser des questions. En tout cas, je sais pas que je risque, je pense que je l'espère un peu.
Mathieu Calame, un mot de conclusion.
On peut se poser la question de savoir si on n'a pas l'agriculture qui correspond à notre société, c'est-à-dire que les sociétés industrielles ont produit une agriculture industrielle et je pense qu'on aura une agriculture écologique que dans une société écologique.
Ce sera votre conclusion et pour prolonger cette réflexion enracinée l'agriculture, société et système agricole du néolithique à l'anthropocène aux presses universitaires de France et votre livre Mathieu Calame, tandis que Jean-Christophe Bureau, on peut vous lire dans l'ouvrage que vous avez publié avec Sophie Toyer de La politique agricole commune, c'est aux éditions La Découverte.